Et l'on débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Gladiateur devant la caméra de Stanley Kubrick, Vincent Van Gogh pour Minelli, Kirk Douglas est mort hier à l'âge de 103 ans. Retour dans un instant sur la carrière de ce fils d'immigré juif sans le sou, devenu une icône de l'âge d'or d'Hollywood. Vous en parliez à l'instant, Guillaume Erner. Kirk Douglas, acteur engagé, il le disait à France Culture dans les années 70, disant avoir libéré Hollywood du joug du marxisme. Nous l'entendrons en français dans un instant.
Lui se voit sortir vainqueur de ce qu'il a dénoncé comme une chasse aux sorcières. Donald Trump a été acquitté hier par le Sénat des États-Unis à l'issue d'un procès en destitution historique.
Un procès qui a jeté une lumière crue sur les fractures au sein des États-Unis sans jamais faire vaciller la base électorale de Donald Trump. À la une encore, la 9e journée de mobilisation contre les retraites dans ce journal focus sur la fronde au sein même de la sécurité sociale et de ses plus hauts cadres. Et puis jeudi, des municipalités. Dans ce journal, nous irons à Marseille où Jean-Claude Gaudin, entré comme benjamin du conseil municipal en 65, s'apprête à l'issue de son 4e mandat de maire à passer la main.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, GAFA et fausses informations, comment sécuriser les élections américaines? On posera la question à Maud Kessar, elle est maître de conférences et chercheuse à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire.
I'm Spartacus.
Cette phrase, ce cri presque aussi célèbre que sa fossette au menton et son sourire en coin, je suis Spartacus, cette réplique culte du film éponyme où l'on se souvient de cette scène où des esclaves se lèvent et se soulèvent contre la République romaine, aux côtés donc de Kirk Douglas pour partager son sort. Kirk Douglas est mort hier à l'âge de 103 ans. Kirk Douglas qui avait porté devant et derrière la caméra Spartacus, ce péplum réalisé par Stanley Kubrick. Kirk Douglas qui s'était félicité d'avoir libéré Hollywood du joug du macartisme car il avait osé produire ce film en pleine chasse aux sorcières, adaptant le roman d'Howard Fast, militant communiste et imposant au générique le scénariste Dalton Trumbo, accusé d'être membre du parti communiste. Kirk Douglas, acteur engagé, qui disait aimer aussi ses films ayant moins rencontré leur public. Kirk Douglas en français, au micro de René Régent pour France Culture. C'était en mai 70 dans le cadre du Festival de Cannes.
Quand je vois les films que j'ai faits, je vois aussi qu'il y a beaucoup de films qui n'en ont pas grand succès, qui sont les films qui me plaisent
le plus,
c'est ça. Par exemple, il y a un film en anglais qui s'appelle Lonely are the Brave, qui me plaît beaucoup. Il y a un autre film qui n'est pas sorti en France, qui s'appelle Paths of Glory, la route de la gloire, quelque chose comme ça. Ça, c'est un grand succès. Mais il y a un autre que j'ai fait ici, La vie de Van Gogh. Ce n'était pas un grand succès.
Kirk Douglas en français à retrouver sur franceculture.fr. Kirk Douglas qui évoquait les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, paru en pleine guerre d'Algérie, alors que la critique de l'état-major n'avait pas droit de citer. Ce film a été interdit en France en 1975. Drame antimilitariste sur la Première Guerre mondiale, où Kirk Douglas incarnait le colonel Dax, un Français qui protège des soldats accusés de désertion. Kirk Douglas, qui est mort, je le rappelle, à l'âge de 103 ans. L'Oscar d'honneur fut la seule statuette dorée qu'il reçut durant sa carrière, malgré des nominations pour le rôle d'un boxeur sans pied dans Le Champion, d'un dirigeant de l'industrie du cinéma dans La Captive aux yeux clairs, c'était en 52, et pour le rôle titre dans La vie passionnée de Vincent Van Gogh, c'était en 1956. Kirk Douglas, né Isur Danielovitch Demski en 1916 à Amsterdam. Kirk Douglas était un farouche opposant à Donald Trump. Pendant la dernière campagne présidentielle, il avait publié une lettre rappelant son parcours de fils de migrants fuyant l'Europe, les totalitarismes, l'antisémitisme pour rejoindre les États-Unis. Et les discours du candidat Trump à l'époque sur les migrants l'avaient révulsé. « J'ai toujours été profondément fier d'être un Américain. Pour les jours qui me restent à venir, je prie pour que cela ne change jamais », avait déclaré Kirk Douglas. Donald Trump, qui, hasard du calendrier, est également à la une ce matin, acquitté après son procès en destitution qui aura duré un peu plus de 2 semaines. Hier, le Sénat, dominé par les Républicains, a estimé que le président des États-Unis n'était coupable ni d'abus de pouvoir, ni d'entrave au fonctionnement du Congrès dans l'affaire ukrainienne. Ce coup de fil passé au président Zelensky pour obtenir des informations compromettantes sur Joe Biden, rival politique démocrate de Trump aux États-Unis. Fin de l'histoire donc de cette procédure d'impeachment. Et bonne séquence pour Donald Trump, qui doit prendre la parole ce midi à Washington, nous appelle Grégory Phillips.
Évidemment, ce procès n'en avait que le nom, un jury partial, car le Sénat est dominé par les Républicains, un accusé absent, aucun témoin entendu et un résultat qui était couru d'avance, l'acquittement pour le 45e président des États-Unis. Mais Donald Trump, évidemment, savoure la fin de la procédure, lui qui, depuis le début, dénonce la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps. Hier soir, la Maison-Blanche affirmait que Trump était innocenté pour toujours. Surtout, le président a pu mesurer que sa majorité républicaine restait soudée derrière lui. Lors du vote final, une seule voix lui a manqué, celle du sénateur de l'Utah, Mitt Romney. Les autres élus républicains, même les plus critiques en coulisses, ont défendu le président. Dans le même temps, Trump voit sa cote de popularité arriver à des sommets jamais atteints depuis qu'il est à la Maison-Blanche. 49% d'opinion favorable, selon un sondage Gallup. Ajoutez à cela l'incapacité du Parti démocrate à fournir les résultats des caucus de lundi dans l'Iowa. Trump est dans une bonne passe et le patron de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, explique que les démocrates ont commis une erreur politique colossale en se lançant dans cette procédure d'impeachment, ce qui se vérifiera ou pas dans les urnes le 3 novembre.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. 14 personnes ont été blessées, dont une grièvement cette nuit à Jérusalem lorsqu'une voiture a foncé dans la foule. La police a ouvert une enquête pour attaque terroriste. On y revient dans le journal de 7h30.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Nouvelle journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites.
La 9e depuis le début de la mobilisation. Manifestation prévue un peu partout en France à l'appel de l'intersyndicale CGT FO FSU Solidaire, à l'appel également d'organisations de jeunesse. Les opposants à la réforme veulent continuer à se faire entendre, même si la mobilisation marque le pas ces derniers jours. Aucune perturbation, par exemple aujourd'hui en vue à la RATP, quasiment rien à la SNCF. Mais Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, refuse lui de baisser les bras.
J'avais dit à un moment donné que ce projet, c'était le Frankenstein des retraites. La créature échappe à ses créateurs, mais là, elle échappe à tout le monde. Je vois même les économistes, Monsieur Bozio, qui de tribune en tribune se détache de plus en plus du projet dont on nous dit qu'il l'avait glissé à l'oreille du président en campagne à l'époque. À l'évidence, il faut que les parlementaires, puisqu'on est maintenant dans un débat parlementaire, ouvrent les oreilles, comprennent que ça ne va pas. Ce projet se délite complètement. On s'est adressé à tous les parlementaires en leur expliquant point par point les raisons pour lesquelles cela nous paraît être une erreur historique.
Yves Verrier, interrogé par Sarah Lemoine, l'intersyndicale se réunira ce soir pour décider de la suite du mouvement. Alors que les débats sur la réforme des retraites ont été tendus hier soir entre les députés insoumis et la majorité au 3e jour d'examen en commission spéciale, les élus LFI qui portent l'essentiel des 22 000 amendements discutés en ce moment, ces élus ont continué à chercher inlassablement à dépecer le texte selon les termes de Clémentine Autain. En face des insoumis présents en nombre, Olivier Véran pour La République En Marche a notamment souligné que la France insoumise avait choisi l'arme d'obstruction massive, ajoutant « nous encaissons sans coup férir depuis 3 jours maintenant ». Arrêtons-nous à présent sur un nouveau front ouvert contre le projet de loi sur les retraites du gouvernement. Et celui-ci émane de l'intérieur même de la sécurité sociale et de ses plus hauts cadres, tous les syndicats des agents de direction des organismes de sécurité sociale, CFDT comprise. Tous ces syndicats ont appelé au boycott de la remontée des informations des régions vers le national, en signe de protestation depuis la semaine dernière. Les syndicats des agents de direction protestent donc contre la disparition à venir des CARSAT. Ce sont les déclinaison en région de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Elle s'occupe des pensions, des risques professionnels et du recensement des accidents du travail. Et dans le nouveau système, ces caisses perdent leur personnalité morale et une partie de leurs compétences qui seraient absorbées par la nouvelle Caisse nationale de retraite universelle. Enjeu décrypté par Marie Viennot. Il y a 16 CARSAT en France et elles emploient 12 000 salariés. Les directeurs de ces caisses ont appris leur future disparition en découvrant le projet de loi sur les retraites à la mi-janvier. Bertrand Picard, président du syndicat national des personnels de direction des organismes de sécurité sociale, CFE-CGC.
Dans les CARSAT aujourd'hui, vous avez en plus de la gestion des retraites de base, vous avez la prévention des risques professionnels et les services sociaux. Donc, que vont devenir ces agents? Que vont devenir ces missions? On pense que tout ça, c'est potentiellement dangereux. On n'est pas contre le changement, on est simplement sur l'idée qu'il faut que ça serve à quelque chose. Et là, on ne voit pas l'intérêt de perdre cette partialité morale et juridique. Et puis, il faut surtout le préparer, quoi. Et c'est pas deux articles dans le projet de loi qui sont suffisants.
Dès décembre 2020, les CARSAT vont perdre leur autonomie de gestion jusque-là paritaire et seront dépendantes de la nouvelle Caisse nationale de retraite universelle. Or, on ne sait pas comment fonctionnera cette caisse qui rassemblera toutes les autres, car cela doit être décidé par ordonnance. Le projet de loi nomme cette nouvelle architecture une gouvernance unifiée. Les syndicats des agents des directions déplorent dans leur déclaration commune l'étatisation de la sécurité sociale et un projet socialement inacceptable. Même la CFDT, pourtant favorable à la retraite à points. Tous appellent directeurs et directrices à boycotter les réunions nationales et à ne plus faire remonter aucune information. Cela n'aura pas d'incidence pratique, mais une portée symbolique. C'est un acte rare qui montre que les 2 ans de concertation ont occulté beaucoup d'acteurs, pourtant centraux dans la mise en œuvre du futur système.
Dans le cadre de nos jeudis sur les municipales, arrêtons-nous à Marseille où Jean-Claude Gaudin est entré comme benjamin du conseil municipal en 1965. Il s'apprête, à l'issue de son 4e mandat de maire, à passer la main. À 80 ans, il était ému lors de sa dernière prise de parole officielle. C'était lors de son dernier conseil municipal fin janvier.
En cet instant, plus qu'en tout autre peut-être, j'éprouve intimement l'honneur qu'ils m'ont fait les Marseillais en m'accordant, puis en me renouvelant par 3 fois leur confiance pour porter le destin de notre ville. Nul ne peut arrêter l'horloge du temps. Elle sonne aujourd'hui pour moi l'heure du retrait. Elle ne marquera jamais la fin de cette passion pour laquelle j'aurais donné le meilleur de moi-même. Je souhaite à chacune, à chacun de vous réussite et bonheur pour les espérances que vous portez et surtout, je souhaite bonne chance à Marseille.
Jean-Claude Gaudin qui va donc passer la main à la tête de Marseille. Jean-Claude Gaudin au micro d'Olivier Martoc. C'était lors du dernier conseil municipal du maire. Olivier Martoc que l'on retrouve à 7h24 pour le reportage de la rédaction dans le cadre de nos jeudis municipales consacrés donc à Marseille. Le temps de ce jeudi 6 février, sec et majoritairement ensoleillé. Au meilleur de la journée, il fera entre 4 et 7 degrés au bord de la Méditerranée jusqu'à 9 en Corse, Guillaume Erner.